Bonjour à toutes et à tous, Mémoire Aveyronnaise numéro 20, et toujours pour la présenter, l'animé, Vincent Beson, bien sûr. Salut Vincent.
Salut.
Vincent, président du comité Rhodes du souvenir français.
Eh oui.
Alors, cette semaine avec toi Vincent, le thème, le sujet, c'est quoi, rappelle-moi?
Alors, je vais vous parler... Ah mince, j'ai un trou, j'ai oublié.
C'est pas ton style.
Ben non.
C'est que, alors, le problème, c'est que je peux pas t'aider parce que c'est toi qui sais tout.
C'est sûr.
Voilà. Donc, une petite amnésie temporaire, on l'espère.
Amnésie,
parce qu'on est
merci,
pour une demi-
ah, merci, ah. Amnésie, voilà. Heureusement que t'es là. Je vais vous parler de l'amnésique des tranchées, ah, appelé oui. aussi le soldat inconnu. Vivant.
Oh là là, ouais, c'est là on est dans le paranormal.
Ah c'est ça, tout à fait.
L'amnésique des tranchées. Ok, bon alors là, donc on est les tranchées, moi, la guerre de 14-18, c'est première
ça.
Guerre mondiale.
Tout à fait, bien vu.
Un... Bon, à part ça, je te laisse faire.
Parce que là, tout à fait.
T'es sûr que tu te souviens de tout?
Oui, 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 maintenant c'est bon.
Okay.
Plus d'amnésie, à part pour vous parler donc de l'amnésique. Donc en ce début d'année 1918, l'Allemagne connaît une grave crise intérieure et manque... totalement de tout, à commencer bien entendu par la nourriture. On le sait peu, très peu même, mais en février 1918, l'Allemagne qui voulait réduire le nombre des bouches à nourrir au sein de la mère patrie, décide en lien avec la Croix-Rouge de renvoyer en France des prisonniers de guerre. Attention, hein, pas ceux qui étaient capables de reprendre les armes contre elle, mais voilà, des prisonniers vraiment...
bien amochés.
Voilà, c'est le cas de le dire.
Ouais.
Le 1er février, un train chargé de prisonniers de guerre français rentre en gare de Lyon, Brotteux. Est-ce que ça te dit quelque chose, cette gare? C'est une gare qui, à part des Lyonnais, qui est assez peu connue.
Ouais.
Elle a fermé ses portes, cette gare, en 1983.
Ah, voilà. Bah non, tu vois.
Maintenant, il y a des bureaux qui sont installés dans cette gare. Une fois tous les prisonniers descendus du train et triés par les autorités militaires et médicales, on découvre, tout seul, dans un coin, un soldat en guenille, sans bagage, qui est prostré, sans bouger, le regard complètement perdu. Un gendarme l'aperçoit et lui demande ce qu'il fait là, et il lui demande aussi son identité. La seule réponse que ce pauvre bougre va réussir à donner au gendarme, c'est « je ne sais pas
». D'accord. Il y avait pas des, ils n'avaient pas des... Alors, les Américains, ils avaient des plaques, là, au Vietnam. Il n'y avait pas des trucs d'identification sur les soldats?
Si.
Hein?
Mais non. Lui, il n'avait
pas. Il n'y avait plus rien.
Lui avait rien du tout. Pas de bagage. Je viens de le dire, pas de plaque d'identité, pas de livret militaire et de papier sur lui, des vêtements vraiment en lambeaux, en guenilles, et même les numéros de son régiment au niveau du col de sa veste de sa capote ou de sa veste en dessous, avaient été retirés.
Mais il parlait français parce que ça se trouve c'était un espion allemand.
Non, il parlait français.
Ah bon, d'accord.
Il parlait français.
Non, mais tu dis, on sait jamais.
Donc, bon, le gendarme va pas trop savoir comment faire. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut tirer au flanc? Est-ce que c'est un déserteur? Ils vont trouver que, bon, psychologiquement, un petit peu atteint.
Oui.
Alors, ils vont l'amener aux autorités médicales qui vont s'apercevoir, en fait, qu'il souffre de démence précoce. Ce que, à l'époque, on appelait aussi l'obusite.
Ah, les gars qui avaient des symptômes bizarres, d'un peu de folie, enfin bizarre, de folie, après avoir s'être retrouvé dans une situation pas possible au milieu des combats, des morts, de tout ce qu'on
peut
imaginer.
C'est ça, tout à fait.
Okay. L'obusite.
Alors, pas dans la guerre de 14, on a plusieurs types de blessés. On a bien sûr les blessés physiques, les blessés de guerre. Et également, on en a beaucoup parlé après la guerre de 14, les blessés de la face, qu'on appelle les fameuses gueules cassées. Mais nous avons aussi ce qu'on appelait à l'époque les mutilés du cerveau. C'est-à-dire ceux qui avaient vraiment des pathologies psychologiques, voire psychiatriques, que l'on connaissait très 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 mal à l'époque et qui étaient très mal connues, très mal comprises, très mal reconnues. C'était vraiment compliqué. Alors, on attribue cette folie à l'effroi provoqué par les bombardements.
Ouais.
Il y a des tirs d'obus sans arrêt. C'est catastrophique. Il y a des millions d'obus qui ont été tirés pendant la guerre de 14. Entre le bruit, le choc, les copains déchiquetés, pulvérisés carrément à côté de toi. C'est vraiment horrible. Donc, on a appelé ça l'obusite. C'est l'action de tous ces bombardements d'artillerie. On parle également de psychose des barbelés. Notre amnésique est alors conduit à l'asile de Bron. Bron, c'est une commune de la métropole lyonnaise. Oui. Puisque bon, il est en gare de Lyon. Hein. Mm-hmm. De là, il passe à Clermont-Ferrand, puis il arrive à l'asile Parère à Rodez.
Ah bah voilà, d'accord.
Tu vois où il est l'asile Parère ?
Non.
Alors, l'asile Parère, je vais peut-être t'aider un peu.
Ouais.
Il reste très 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 peu de bâtiments, mais le bâtiment le plus joli qui a été conservé et qui a été classé, c'est la fameuse chapelle Parère.
Ah bah oui, bien sûr.
Et ben voilà, d'accord, tu vois que tu connais.
À côté des haras, là, ou haras.
De l'autre côté.
Oui, d'accord.
En fait, c'est derrière le lycée Foch.
Oui,
puisque dans les années 50, l'asile a été rasé, quand l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie, Quessiol, a ouvert. Et après l'incendie du lycée Foch, place Foch, les locaux donc, ont été construits et transférés à l'emplacement de l'ancien asile Parère. Donc il reste que cette magnifique chapelle où il y a un très joli petit musée consacré à quelqu'un dont je parlerai juste après. Et également quelques bâtiments anciens, mais très peu, notamment un bâtiment où se trouvent actuellement les bureaux de l'Agence régionale de santé.
Ah oui, d'accord.
Alors donc ce fameux personnage, autre personnage célèbre qu'on retrouvera dans cet asile Parère, est quelqu'un de très connu. Il a été, on le connaît comme étant acteur, écrivain,
oui,
poète, essayiste, dessinateur, etc., etc., etc. Je veux parler d'Antonin Artaud.
Eh oui.
Antonin Artaud, il séjourne de 1943 à 1946. Mmh. Alors tiens, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est vraiment à deux pas de là où nous sommes, de notre studio radio. Mmh. Tu connais le Café Brossi, l'hôtel Brossi.
Oui, bien sûr, c'est tout près là, à
alors,
quelques mètres.
Est-ce que tu y es déjà rentré ?
Ah oui, c'est très beau à l'intérieur, style art déco un peu, enfin j'y connais rien en architecture.
C'est vraiment très très beau. Mmh. Tu n'as jamais remarqué une petite plaque ?
Ah non, j'ai pas fait. Tu sais, moi je bois là.
Ça se trouve, t'avais même le dos contre.
Oui, ça trouve, ouais,
en fait, il y a une petite plaque à l'endroit où s'asseyait, parce qu'il devait avoir des permissions de sortie, où s'asseyait régulièrement justement Antonin Artaud.
D'accord, il avait sa place.
Pour lui aussi boire un coup.
Ah oui, bah oui.
Donc tu vois, c'est tout près de.
D'accord.
C'est tout près des studios. Mmh. Donc il y a sur la banquette, il y a cette petite plaque commémorative qui est assez sympa.
Bah là aussi, j'irai faire un tour pour voir.
Voilà, pour voir ou pour boire.
Ouais, les deux.
Bon, les deux, d'accord. Avec modération.
Bien sûr.
Mais revenons à notre amnésique.
Oui.
Après de nombreux recoupements et de nombreux interrogatoires, on lui donne le nom d'Anselme Mangin.
On aurait pu faire plus simple pour le nom d'un mec qu'on ne connaissait pas, qu'on invente.
C'est ça. Mais de temps en temps, il disait Mangin.
Ah,
Mangin. Mangin, c'est aussi le nom d'un général très connu à l'époque.
Oui.
Donc, est-ce qu'il parlait du général et de l'endroit où il avait été blessé par l'offensive Mangin?
Ouais.
Bon, ça, on ne sait pas. Mais après recoupement, donc, on lui donne le nom d'Anselme Mangin. On va voir qu'en fait, c'était pas ça. Au moment de l'armistice, le 11 novembre 1918, ce fameux Mangin n'est pas le seul poilu sans identité.
Ouais.
Ils sont 10 en cette fin d'année 1918. Certains vont être identifiés, certains vont mourir. Ils ne seront plus que 6 en janvier 1920.
Mais 6 au total en France ou 6 là ?
Ah oui, il y en a
que 6. Bah, c'est pas beaucoup, moi je trouve.
C'est pas beaucoup. Oui. Non, mais complètement amnésique, sans identité totale.
Mais 6, c'est pas énorme.
Et je parle d'un soldat vivant.
Oui,
je
ne
parle pas de tous les morts qui n'ont pas pu être identifiés.
Là, il y avait un paquet.
Voilà. C'est vrai que, comme tu dis, le chiffre n'est pas.
Pas énorme.
Au niveau national, le chiffre n'est pas du tout énorme. Le ministère des Pensions se met en quête de retrouver la véritable identité et la famille de notre amnésique.
Ouais.
Son portrait et sa description complète paraissent dans tous les journaux de France.
Bonne idée.
Ouais, très très bonne idée déjà pour l'époque.
Ouais.
Et des affiches sont placardées dans toutes les mairies.
D'accord, mais il devait de l'argent à quelqu'un parce que dans ces...
Non, mais c'est les pensions. Donc il y avait une pension à donner à sa famille.
C'était sympa.
Si tu veux, après la guerre de 14, il y a quand même eu, après l'armistice de 18, on est dans la reconnaissance.
Dans
la réparation.
Il
y a tellement eu de morts, d'orphelins, de veuves, de personne
mutilée,
partiellement blessée, ou totalement handicapée, voilà, ouais. Que là on est dans le calcul, mmh. On est dans la reconnaissance financière et aussi la reconnaissance
nationale,
voilà, pour savoir qui est invalide, d'accord. qui est décédé, qui est veuve, etc. Mmh. Ça rentre aussi dans les calculs de dommages de guerre payé par l'Allemagne du traité de Versailles, mmh. qui est en train de se préparer.
Oui, bien sûr.
Donc voilà, y a tout doit se calculer.
D'accord.
Et donc vraiment un tapage national, ouais. pour ces amnésiques, ces inconnus et notre fameux Mangin. Alors voilà le texte de l'annonce. Je vais vous lire, chers auditeurs, le texte de l'annonce pour Mangin. Soldat d'infanterie, grand, de 1,64 mètres, roux foncé, paraissant âgé d'environ 30 ans, portant la cicatrice d'une fracture à la cuisse droite, pouvant répondre au nom de Mangin, possède une bonne instruction primaire, s'exprime et écrit avec facilité et même élégance, parle quelques mots d'anglais.
Ah ouais, quand même.
Voilà donc la description de, mmh. de ce qu'on pouvait lire.
1m64 à l'époque, c'était grand.
Pour le descriptif de Mangin, 64.
Ouais, c'est pas grand, moi j'appelle
c'est
pas ça grand.
Non, c'est
mais
pas grand.
L'époque,
c'est pas grand. Bon, okay. Non, c'est pas grand.
Okay.
Mais rapidement, en fait, les Français vont se passionner pour cette histoire. Et c'est un peu le Santa Barbara de l'époque. Donc on va très vite le surnommer, on va lui donner des petits noms. On va le surnommer l'inconnu, le soldat inconnu vivant, pardon, l'amnésique de des tranchées ou encore l'amnésique de Rhodes.
Ouais, ouais.
Cet appel va si bien marcher qu'en fait, c'est pas une famille qui va répondre à cette annonce, mais à peu près une centaine.
Ah oui.
Il faut savoir que de 1914 à 1918, 250 000 soldats sont portés disparus.
Ah oui.
Donc chacun veut voir dans ces soldats inconnus, mmh. leur chair disparue.
Bien sûr.
Chacun y voit un mari, mmh. Un père.
Ça me fait penser au film Retour de Martin Guerre. Une histoire un peu comme ça.
Tout à fait, tout à fait. Où il y a carrément justement une enquête.
Ouais.
Mais tu fais bien le
très bon film.
Très très bon film.
Très bon film.
Où on va faire défiler des témoins, les empreintes de pas, où on s'aperçoit finalement à la fin que le pied il peut grandir, mais il peut pas rétrécir, et là il y a un petit problème d'empreinte. Enfin, c'est un peu ça, toi, t'as tout à fait raison.
D'accord.
Mais cette absence, en fait, pas savoir s'il est mort, s'il est pas mort, ça pose des problèmes. Les gens sont dans une attente affreuse, le deuil est impossible à faire, tu sais pas réellement s'il est mort ou pas.
Oui.
Donc c'est vraiment compliqué. En plus, il faut des procès devant les tribunaux pour qu'enfin la personne soit déclarée morte, sinon la veuve n'est pas veuve,
ne touche pas
d'argent, n'a droit à rien, les enfants ne peuvent pas être adoptés par l'État en tant que pupilles de la nation. Mmh. C'est vraiment compliqué. Alors, cette centaine de personnes, ça a été vraiment compliqué parce que certains vont se livrer une bataille acharnée pour pouvoir récupérer cet inconnu, mmh. même en faisant des procès devant la justice pour faire valoir que c'est bien quelqu'un de leur famille, malgré les preuves, des fois, qu'on peut leur apporter en disant que...
C'est pas possible.
C'est pas possible.
Ouais.
On veut tellement croire.
Mais
c'est ça.
Mais oui.
Psychologiquement, jusqu'où ça va. Il y a un très beau film de guerre aussi qui se passe comme ça. C'est où il y a le même problème à la fin. C'est un long d'image de fiançailles.
Ah oui.
La fin, c'est pareil.
D'accord. Oui, tout à fait.
La fin, c'est pareil. On a beau dire à une mère, tu sais, à la fin, que son fils n'est pas son fils. Elle est tellement contente, en fait, d'avoir un fils et de ne pas l'avoir perdu, que voilà, le cerveau claque et tellement persuadé que c'est impossible que ça soit pas son fils. Mmh. Quoi. Après des années d'expertise et d'enquête, la justice officialise enfin l'identité de notre inconnu.
Ah.
Anselme Mangin s'appelle en réalité Octave Monjoin.
Ah, c'est pas mal.
Monjoin, Mangin, ouais. Tu vois, c'est... On n'est pas très éloigné
quand prénom, même. Mais sur le nom, on est pas mal.
Ouais, on est pas mal. Mmh. Né le 19 mars 1891 à Saint-Maur dans l'Indre.
Ah, d'accord, c'est pas un Aveyronnais.
C'est pas un Aveyronnais.
Finalement, ça aurait pu, mais non.
Ça aurait pu. Okay. Et en fait, on l'avait amené en Aveyron parce qu'une famille aveyronnaise l'avait reconnu.
Ah, ouais.
Et d'après le descriptif, donc on l'avait amené à l'asile de Parère pour qu'il rencontre cette famille et pour que l'enquête se passe là. Mmh. En 1934, on l'envoie dans sa ville natale pour retrouver sa famille supposée.
Ouais.
Alors, on le laisse un peu faire au quai de la gare. Il retrouve seul le chemin de sa maison et s'étonne même de ne plus voir le clocher de l'église qui a été abattu par la foudre pendant qu'il était à la guerre.
Ah, donc
tu vois,
ouais, c'était peut-être bien
pas mal
lui.
Quand même, pas
ouais,
mal.
C'était peut-être bien
la
lui.
Justice tranche en sa faveur et en la faveur de, donc de la famille Montjoin, qui s'était elle-même déclarée. Hein. Mais le transfert vers sa famille ne va pas pouvoir se faire tout de suite. Ça va traîner énormément de temps parce que une autre famille fait appel. Ah, de la décision de justice. D'accord. En disant c'est pas possible, non. C'est notre fils. Ouais. Donc ça va être énormément compliqué. Et en 1938,
oh là là, ouais, 20 ans plus tard.
20 ans plus tard que le tout début.
Ouais, ouais.
Mais là il est déclaré, je le rappelle, il est déclaré en 34. Donc ça va traîner. La justice, là, tout est clos. Hein, c'est bien Octave Montjoin. Mais le problème, c'est que ça a vraiment trop traîné. Ouais. Sa mère était déjà décédée depuis longtemps. Il restait son père et son frère. Ouais. Et en fait, la même année, il va se retrouver orphelin.
Oh.
La même année, en fait, son frère et son père vont mourir.
Oh bah, d'accord.
Donc quand il va rentrer chez lui, il sera seul.
D'accord. Il n'était pas marié à l'époque, avant de partir
non,
à la guerre.
A priori, non.
D'accord.
A priori, non.
Ouais, donc il se retrouve tout seul.
Tout seul.
Il a toute sa famille, son nom, mais il n'y a plus de famille.
Ben c'est ça, tout seul et même pas chez lui.
Ah bon ?
Eh oui, puisque il est psychologiquement
il peut pas,
toujours très atteint.
D'accord.
Il peut pas se gérer tout seul.
Ouais.
Donc il est interné à l'asile Sainte-Anne à Paris.
Ah, qui est connu aussi l'asile Sainte-Anne,
qui est connu aussi le fameux. Ah, le fameux, moi je sais pas. tu nous en parleras peut-être dans une prochaine émission.
D'accord.
Donc il va passer toute sa vie dans cet asile. Après avoir déchaîné les passions de la France entière, il meurt totalement dans l'oubli, puisqu'on parle plus de lui.
Ouais.
Une fois qu'on a retrouvé son nom, ça a plus été très intéressant.
Ouais.
Il meurt en 1942. Voilà, pendant la guerre, dans la solitude la plus complète.
Ouais, bah, dis donc.
Il est enterré dans une fosse commune.
Oh non, mais tu veux nous faire pleurer.
Mais non, regarde, laisse-moi finir. Ah,
il a gagné au loto.
Ça finit bien, ça finit bien.
Alors,
ça fait presque bien, puisque vous voyez, il est quand même mort.
Il est quand même mort.
Mais en 1948, donc 6 ans après sa mort, un riche ancien combattant de la guerre de 14 décide à ses frais de lui faire construire une sépulture et dans sa ville de Saint-Maur et le fait exhumer de la fosse commune pour qu'il puisse reposer dans une tombe individuelle sous le nom d'Octave Montjoin.
Très bien.
Voilà.
Bon.
Donc tu vois, ça finit quand même mieux. Ça finit quand même mieux. Notre amnésique a fait couler, je l'ai dit, beaucoup d'encre et aussi de la pellicule.
Ouais.
Durant 20 ans, donc tous les journaux de France et de Navarre se sont passionnés pour cette affaire. Moi-même, j'ai réussi à récupérer. Tu sais, les auditeurs savent depuis qu'on se connaît que je suis collectionneur d'objets militaires, mais aussi d'objets des fois historiques, enfin, voilà, tout ce qui peut être intéressant.
Tu fais des trouvailles régulières, il y en a de toutes récentes, on en reparlera peut-être bientôt.
Pour la Normandie.
J'ai cru voir ça.
Oui. Ou la Normandie, j'ai pas encore trouvé d'Aveyronnais pour pouvoir malheureusement parler de la Normandie. Mais c'est vrai que je fais régulièrement des trouvailles avec un projet, il est vrai, peut-être qu'un jour on en reparlera. Ça m'étonnerait, mais peut-être qu'un jour j'aurai une bonne nouvelle à vous apprendre avec un projet de musée, justement, mémorial sur les Aveyronnais dans les deux guerres et dans la résistance.
Ça serait bien, quoi.
Enfin, ça serait pas mal.
Oui.
Ouais, ça serait pas mal. Mmh. Mais bon, là, pour l'instant, donc, j'ai récupéré un journal qui est Le Petit Parisien du 18 octobre 1935, où il y a tout un article, justement, sur notre amnésique et sa photo. Mmh. Alors, la photo, chers auditeurs, vous pourrez la retrouver en podcast.
Ah, super.
Voilà, vous savez, chaque fois, pour imager le sujet du jour, je mets une petite photo. Donc là, ça vous aurez carrément la photo de notre amnésique de Rodez.
Si ça se trouve, tu vas relancer l'enquête, il y a des gens qui vont nous dire, mais c'est mon grand-père.
C'est ça, finalement.
On va peut-être relancer
qu'il était bien avéronné.
Il était bien avéronné.
Non, apparemment, la justice avait bien fait, je dis pas pour une fois, mais avait bien fait son office.
Bon.
Alors, on retrouve également en 1937 dans une pièce de théâtre de Jean Anouilh qui s'appelle Le Voyageur sans bagage.
Ah oui.
Cette pièce donnera lieu à un téléfilm en 2004 de Pierre Boutron avec Jacques Gamblin qui s'appelle Le Voyageur sans bagage.
Ah ben je me souviens plus.
Nous trouvons également plusieurs romans, Siegfried et le Limousin De Jean, alors je sais pas si on dit Giradou ou Giradou, édité en 1922 aux éditions Grasset.
D'accord.
Également, Le soldat inconnu vivant, 1914-1942, par Jean-Yves Le Naou, édité en 2002 aux éditions Hachette. Et L'amnésique des tranchées, de Jean-Michel Cosson, édité en 2014 aux éditions de Boré.
Très bien. Ouais. C'est vrai que les histoires comme ça, ça donne envie à des écrivains, à des auteurs de créer des histoires autour. Parce que tout est possible.
On peut broder, on peut faire plein de choses. Ouais.
D'accord. Bon, bah, merci pour toutes ces références. Et puis cette histoire d'Octave Mangeois.
C'est ça.
Voilà, finalement. Qui a retrouvé son identité après bien des mésaventures au milieu du XXe siècle, quasiment, enfin au début du XXe siècle. Merci beaucoup, Vincent.
Ben merci, avec plaisir.
Pour cette belle émission, une nouvelle fois. On se retrouve. Tu repars en Normandie.
Oh, peut-être pas en Normandie, je sais pas. Toujours en recherche de d'objets, d'histoires et puis de d'idées pour des prochaines émissions à vous présenter. Donc là, ça sera. Les vacances.
Et c'est bien, profites-en bien, merci beaucoup. Je rappelle que toutes tes émissions sont à retrouver en podcast et on se retrouve donc à la rentrée début septembre.
Oui, tout à fait. Ça sera avec grand plaisir.
Et moi aussi, je vais te dire. Et puis tous aussi. Merci beaucoup, Vincent.
Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.